autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour une plongée féerique au cœur d'un écosystème aussi fascinant que fragile, le corail. Les récifs coralliens, stupéfiants de beauté, abritent 30% de la biodiversité océanique, un réservoir de vie essentiel à la fois animal, végétal et minéral, qui se révèle particulièrement sensible, trop sensible, à nos activités humaines. Comment mieux comprendre cet écosystème unique en son genre pour mieux le préserver, car il y a urgence. Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités, la chercheuse de l'IRD Pascale Chabanais, en direct avec nous depuis l'île de la Réunion, et le professeur Denis Allemand de l'IFREMER, directeur scientifique du Centre scientifique de Monaco, co-auteur de Corail, un trésor à préserver aux éditions Glénat, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Autour de la question pourquoi le corail est un drôle d'animal et comment le préserver, bienvenue au cœur même de la barrière de corail, au large de l'île de la Réunion, sur les traces des chercheuses et plongeuses, Pascale Chabanais et Lola Massé.
Alors on est en train de quitter le port de Saint-Gilles et on va direction la plage de Boucan-Canotte pour pouvoir plonger sur cette partie-là du récif. Vous voyez qu'on prépare le matériel de plongée qui est un matériel assez lourd, mais en fait qu'on ne sent plus du tout quand on est dans l'eau. Et c'est parti, nous voilà arrivés sur la pente externe du récif corallien. Et on fait un test son justement pour se parler. Donc sous l'eau, sans les masques, on peut se parler avec des gestes. C'est pas forcément facile de toujours se faire comprendre quand on a plein de choses à dire.
Donc on voit quand même là que le milieu est assez pauvre, hein. On n'a pas beaucoup de corail vivant là au niveau de la pente externe, et même au niveau des poissons, on n'en voit pas beaucoup. Alors c'est sûr que le fait d'arriver, de plonger, de faire tout ce bruit et tous ces mouvements, bah ça fait fuir aussi les poissons. Mais globalement quand même, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, quand on fait des comptages de poissons notamment, on a toujours un petit moment où on se stabilise à un endroit et on ne bouge plus pour que les poissons qui sont associés au récif corallien puissent reprendre leur vie sans avoir cette inquiétude de voir ces plongeurs qui font autant de bruit sous l'eau.
Donc moi en particulier, je vais observer tout ce qui est les colonies de coraux qui sont le long de cette ligne et regarder aussi s'il y a d'autres animaux comme des bernards l'ermite, des étoiles de mer, des oursins qui peuvent être des indicateurs d'un bon état de santé du récif. Et Pascale, autour de moi, elle va faire des comptages de poissons.
Pascale Chabanais, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui comptez les poissons pendant cette plongée virtuelle que vous avez partagée cette année pendant la fête de la science. Pendant cette plongée donc avec Lola Massé. Alors elle compte les coraux au large de l'île de la Réunion où vous êtes, Pascale Chabanais, en direct avec nous, en ligne depuis la station marine de l'IRD à la Réunion. Vous êtes spécialiste en écologie des poissons récifaux. Vous avez mené des programmes de recherche sur presque toutes les zones récifales de l'océan Indien et du Pacifique Sud. Aujourd'hui, vous êtes donc basée à la Réunion. Votre programme de recherche joliment intitulé Paréo pour patrimoine récifial entre nos mains implique à la fois de mieux comprendre la dynamique de ces écosystèmes fascinants, mais aussi d'informer, d'écouter, de sensibiliser la population locale au corail, car c'est leur vie aussi. C'est à la fois une vie animale, végétale et minérale dans les océans, mais le corail c'est aussi la vie pour les hommes et les femmes qui vivent autour et avec de ces récifs coralliens, Pascale Chabanais.
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai, comme vous l'avez dit, le récif corallien va abriter plus de 30% de la diversité animale et végétale qu'on trouve au niveau marin sur la planète, pour à peine moins de, on va dire, 0,1% de la surface des océans. Donc, c'est vraiment un endroit avec vraiment énormément de cette richesse, en fait, animale et végétale. Et cette biodiversité, en fait, va permettre de réguler notamment les équilibres physico-chimiques, comme par exemple le cycle du carbone. On sait que les océans sont des puits de carbone via les coraux. Il y a pas le piéchage de carbone par les coraux. Donc, voilà. Et cette biodiversité, elle est aussi très utile pour les hommes, puisque c'est la base de la nourriture hein, pour beaucoup de populations dans les zones tropicales et notamment les pays du Sud. Hein, on estime qu'il y a près d'un milliard d'êtres humains qui vivent des ressources biologiques hein, provenant des récifs coralliens. Donc en fait, ils ont vraiment un rôle important et c'est une source de revenus aussi à la fois donc pour via le tourisme et la pêche. Donc en fait, voilà, c'est vrai que les récifs coralliens, on a tendance à les voir un peu comme une carte postale, mais ils ont un rôle extrêmement important à jouer pour la population. Et je voulais aussi rajouter une chose, c'est que c'est la barrière corallienne, c'est une barrière naturelle contre les vagues, notamment si vous avez des cyclones, des tsunamis, etc. Vous avez cet océan qui va taper sur cette barrière et qui va justement protéger les côtes de l'érosion des vagues. Pour vous donner un exemple, vous avez la barrière en Nouvelle-Calédonie, elle a plus de 200 mètres de hauteur. À La Réunion, c'est une 50 mètres de hauteur parce que c'est un récif qui est plus jeune. Mais vous imaginez ce mur qui protège la côte des assauts des vagues qui viennent du large. Voilà, donc en fait, c'était juste rappeler un petit peu le rôle de ces récifs.
C'est ça le rôle. Au-delà, comme vous le dites, de la carte postale, à la radio, on ne le voit pas, mais la carte postale est tout de même magnifique. C'est extraordinairement beau. Mais, mais au-delà de ça, le rôle essentiel à tous les niveaux du corail. Alors, j'ai posé la question aussi à Denis Allemand. Bonjour Denis Allemand.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est que le corail, hein ? On va y venir, bien sûr, à la fois animal, végétal, minéral. Merci en tout cas, Denis Allemand, d'être en ligne, en direct avec nous depuis Monaco. Alors, vous êtes professeur des universités en biologie animale, chercheur Ifremer, directeur scientifique de l'Institut scientifique de Monaco. Votre recherche porte précisément sur la physiologie des coraux. Hein. Vous étudiez la physiologie des coraux depuis de nombreuses années. Vous venez de publier avec Robert Calcagno et Bernard Fautrier, Corail, un trésor à préserver aux éditions Glénat. C'est l'aspect donc physiologique, microscopique du corail que vous cherchez à mieux comprendre. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur le corail, Denis Allemand, et qu'est-ce que c'est un animal, un végétal, un minéral, ou les trois à la fois, ou encore autre chose?
Malheureusement, on sait encore peu de choses sur ces animaux. Alors, ce sont bien des animaux. La nature animale de ces coraux a été découverte, en fait, relativement récemment. Elle a été découverte pas sur les coraux constructeurs de récifs, mais sur un corail méditerranéen, sur le corail rouge, hein, le corail dont on fait des bijoux, le corail utilisé en bijouterie. C'est en fait un médecin marseillais, au milieu du XVIIIe siècle, qui a réellement apporté des arguments pour dire que ce corail rouge était bien un animal. Jusqu'alors, on ne savait pas très bien, hein, depuis Aristote, les scientifiques imaginaient que ça pouvait être une pierre, puisque c'est dur, hein, ça, c'est effectivement, ça ressemble à une pierre, ou un végétal, puisque on voit des petites fleurs qui s'ouvrent, et donc ça pouvait être un végétal. Mais en fait, c'est vraiment un animal, mais c'est un animal très particulier. Hein. Alors, certains travaux que l'on a fait, on appelait ça une chimère. C'est bien un animal, il n'y a pas de doute, mais c'est un animal qui héberge dans ses cellules, à l'intérieur même de ses cellules, des petites algues microscopiques qui vont faire de la photosynthèse et qui font que les récifs coralliens vont se trouver près de la surface. On ne trouve pas de récifs coralliens, en tout cas, les coraux que l'on trouve en profondeur ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, ces petites algues vont faire de la photosynthèse, comme toute plante, et vont transférer une grande partie des produits de cette photosynthèse à l'animal, 95%. L'animal va être nourri par ces algues, mais au-delà même de cette nourriture, une partie de cette nourriture va être excrétée dans le récif et va expliquer ce que vous disiez tout à l'heure, ce que Pascal Chabanet disait également, va pouvoir nourrir le récif corallien et faire de ce récif une zone, un hotspot de biodiversité, un endroit où va se concentrer la biodiversité, c'est un oasis dans des déserts océanique. Tout autour de ces récifs coralliens, il n'y a pas de vie. La vie se concentre dans le récif, nourri par cette symbiose.
Donc c'est vraiment c'est vraiment un écosystème très particulier. C'est vraiment un foisonnement de vie et avec en même temps une partie comme minérale, enfin qui fait des constructions, c'est ça.
Tout à fait. Donc effectivement, donc c'est un animal qui héberge des algues et qui sécrète un squelette de carbonate de calcium. Carbonate de calcium, c'est le calcaire. Hein. Alors c'est un squelette un peu particulier. particulier parce que c'est pas du carbonate de calcium pur. Hein, pour fabriquer ce squelette qui a des formes absolument fantastiques, ouais, le corail fabrique d'abord rejette d'abord des molécules complexes qui vont faire une trame sur laquelle va déposer le carbonate de calcium et qui vont faire les récifs coralliens hein, qui ont, comme Pascal le précisait, plusieurs centaines de mètres de hauteur ou plusieurs milliers de kilomètres de longueur pour la Grande Barrière. Cet ensemble va être réellement construit par le corail. Le récif corallien est vraiment construit par le corail. C'est pour ça que l'on appelle le corail un organisme ingénieur. Hein, il bâtit son écosystème.
Autour de la question du corail, donc cet organisme vivant ingénieur, ce trésor à préserver, pour reprendre le titre de votre ouvrage, hein, Denis Allemand, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. Alors la petite, hein, c'est une petite communauté de chercheurs coralliens dont vous faites partie. Pascal Chabanais et Denis Allemand ne ménagent pas ses efforts pour tenter de comprendre le fonctionnement spécifique de cet ingénieur, de cet organisme ingénieur du corail, sur le terrain comme vous Pascal ou en laboratoire comme vous Denis. Alors entre 2016 et 2018, qui était l'année internationale des récifs coralliens, l'expédition Tara Pacifique a été menée donc à bord de d'une goélette. Des investigations scientifiques ont permis de mieux connaître ces écosystèmes coralliens. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait d'un documentaire du CNRS sur cette expédition Tara Pacifique au chevet du corail.
Sous la surface des océans, il est un empire en voie de disparition. Le corail, le plus grand bâtisseur du monde marin dont les constructions calcaires sont visibles depuis l'espace, est aujourd'hui confronté à des menaces qui mettent en péril des écosystèmes tout entiers. On estime que plus de 20% de ces récifs ont été irrémédiablement détruits au cours des 50 dernières années et que plus de la moitié pourrait encore disparaître dans les années à venir. En cause, l'augmentation de la température et de l'acidification des océans à l'échelle mondiale qui perturbe le cycle de vie de cet organisme fragile. À l'origine de ces reliefs se trouve un animal, le polype. Cet organisme se développe en colonies de milliards d'individus qui construisent autour d'eux un squelette calcaire. Au fil des générations, l'empilement de ces squelettes donnera naissance à de nouveaux récifs. Afin de tenter d'établir un diagnostic sur la santé de ces récifs et de prévoir leur adaptation, une mission scientifique inédite s'est lancée à l'assaut de l'océan Pacifique. La goélette Tara, construite à l'origine pour explorer les régions polaires, embarque à son bord des équipes de chercheurs venus du monde entier et qui ont mis le cap sur plus de 40 archipels du Pacifique, pour la plupart totalement inhabités. L'objectif, constituer la plus grande base de données jamais réalisée sur l'écosystème corallien en collectant quelques 40 000 échantillons.
40 000 échantillons collectés donc par l'expédition Tara Pacifique. Pour mieux connaître et comprendre les récifs coralliens, Denis Allemand, avec notamment Serge Planès, hein, spécialiste mondial des récifs coralliens, mais aussi et surtout pour répondre à la terrible question du blanchiment des coraux. C'est ça, Denis Allemand ?
Tout à fait. Alors, faut quand même dire deux mots hein, sur cette fantastique aventure hein, qu'a été Tara Pacifique et qui continue, hein, bien entendu, parce que si la navigation est terminée, on continue à travailler sur ces échantillons et on espère que les premiers résultats tomberont dans les mois à venir.
Oui, vous travaillez actuellement sur ces échantillons
tout à fait,
hein, de Tara.
Tout à fait. On est en train de finaliser les premiers résultats. Aventure fantastique avec cette goélette qui est mythique. Hein, c'est une goélette mythique, une aventure humaine, une aventure scientifique. La première fois que l'on étudie au niveau vraiment d'un océan la complexité des récifs coralliens, le film le dit très bien, hein, 100 000 km parcourus, des milliers d'échantillons collectés de toute nature. Ça peut être aussi bien des échantillons d'ADN, des échantillons de biologie, des échantillons de protéines, des échantillons de squelettes, d'eau de mer avant, après le récif. Réellement, hein, une quantité de données phénoménales qu'il faut maintenant analyser pour essayer de voir quelles sont en fait les bases mêmes du fonctionnement de ce récif par rapport à l'océan et ainsi également déterminer quelles sont les caractéristiques qui vont faire qu'un corail va pouvoir s'adapter parfaitement à un milieu et survivre aux changements effectivement anthropiques qu'il subit aujourd'hui. C'est en essayant de voir dans toutes les conditions possibles, on a visité des récifs en bon état, des récifs en moins mon état, des récifs qui avaient blanchi, hein, qui subissent ce phénomène de blanchissement.
Ou ils perdent leur couleur, hein, c'est ça, hein, ils perdent leur couleur.
Alors en fait, le blanchissement, c'est la rupture du mariage entre le corail et le végétal dont je parlais tout à l'heure, hein, entre ces petites algues qui vivent à l'intérieur des tissus. Le blanchissement, c'est la température qui augmente très peu, un demi degré suffit à provoquer le blanchissement. C'est sûrement le signal, le phénomène induit par les changements climatiques le plus sensible. Aucun phénomène induit par les changements, par le réchauffement de la Terre, n'a cette sensibilité d'un demi degré pour provoquer un phénomène qui est visible à l'œil nu. En quelques heures, vous voyez le récif devenir tout blanc. Il perd ses algues et donc il perd les couleurs que donnent ces algues à l'animal. Et par transparence, comme ces tissus deviennent transparents, ben, par transparence, vous voyez le squelette qui est blanc. Et donc c'est pour ça qu'on parle de blanchissement des coraux.
Blanchissement des coraux qui signe vraiment la mauvaise santé des coraux. Alors Pascal Chabanet, c'est précisément ce que vous étudiez et ce que vous avez vu, parce que vous êtes né à La Réunion et les coraux étaient... vous les avez vus blanchir, on peut le dire comme ça, Pascal Chabanet ?
Alors je les ai vus en fait se dégrader petit à petit. En fait, le blanchissement, c'est un phénomène qui est visible pas très longtemps en fait, parce que dès que le corail blanchit, au bout d'un mois en gros, hein, ou même un peu avant, vous avez, ils sont très vite colonisés par des algues, et du coup, je dirais plus que le signe de dégradation que j'ai observé, hein, durant, parce que moi j'ai passé ma vie au bord du lagon de Saint-Gilles à La Réunion. C'est plus une perte de couleur de ce récif en fait. J'ai vraiment des souvenirs d'enfance, parce que comme disait Denis Lallemand, un récif en bonne santé, donc il y a ces fameuses petites oxantelles, hein, qui donnent toutes ces magnifiques couleurs aux coraux. Et donc un récif qui va bien en fait, même si on n'y connaît rien, je dirais, vous mettez la tête sous l'eau, si vous voyez plein de couleurs avec les coraux de couleur, mais aussi les poissons associés, c'est que le récif va bien. Et si vous voyez plus les coraux qui sont colonisés par des algues, donc un récif plus dans les tons de vert, de marron, et ce qui a aussi d'étonnant, enfin, c'est pas si étonnant que ça, mais en tout cas, les poissons qui sont associés à ces coraux colonisés par des algues, ce sont donc essentiellement, vous avez beaucoup d'herbivores, et en fait, beaucoup de ces espèces en fait ont des couleurs aussi qui sont plutôt ternes. Il y a les poissons chirurgiens, je vois sur le récif de La Réunion, qui sont marrons. Vous avez donc voilà, vous avez vraiment cette image de couleur en fait. Vraiment un signe de bonne santé du récif corallien.
Bonne santé du récif corallien. Est-ce qu'on comprend mieux pourquoi, comment, quels sont aussi les poissons qui vivent autour? C'est un véritable écosystème, c'est un vrai écosystème, hein, c'est vraiment un monde, un monde à part. Un monde à part à chaque récif corallien, c'est-à-dire à La Réunion où vous êtes, c'est particulier, différent d'autres récifs coralliens que vous avez étudiés près de Madagascar, près de Nouvelle-Calédonie.
En fait, un récif corallien a toujours des composantes de base qui sont les mêmes, hein, le récif, les coraux, associé donc avec, donc comme vous parlez d'écosystème, c'est vrai que c'est important en fait. Moi j'ai une image que j'emploie souvent qui est assez parlante pour dire que le corail est au poisson ce que l'arbre est à l'oiseau en fait. Si vous voulez, joli. Le récif corallien, c'est vraiment une petite forêt de calcaire sous la mer, avec effectivement une faune et une flore très très diversifiée. Donc ça, on a des composantes qui sont les mêmes partout, hein. Comme disait Denis Lallemand, la notion de température qui est importante. Si vous avez tous les impacts en fait anthropiques ou les impacts du changement climatique vont être les mêmes un peu sur tout le récif. Par contre, vous avez en fonction de, par exemple, moi je travaille beaucoup à La Réunion. Vous avez un petit récif qui est tout jeune sur une île qui a à peine 3 millions d'années. Vous avez un petit récif qui est attenant à la côte. On parle de récif frangeant avec un volcan qui est assez imposant. Donc comme il y a beaucoup d'urbanisation, de construction, de déforestation, vous allez avoir des pluies, par exemple, c'est de la terre qui va raviner via les ravines et qui vont arriver sur les récifs coralliens. Et notre petit récif qui est tout jeune, qui est frangeant, vous avez la barrière qui est à peine à 500 mètres au maximum du bord de la plage. Et donc, vous voyez, du coup, il y a une vulnérabilité qui est beaucoup plus forte sur des petits récifs comme comme ceux de La Réunion. Par contre, si vous, encore une fois, si je compare avec les récifs de Nouméa, des fois la barrière elle est à 20 km au large. Donc, vous voyez, vous avez c'est, chaque récif est particulier en fait.
Et Pascal Chabanais, chaque récif protège aussi la côte, parce qu'effectivement, ces jeunes récifs, oui, ils sont plus menacés, mais si vraiment ils commencent à se dégrader, ça risque d'être très grave pour l'île elle-même, enfin pour la plage. Donc il y a vraiment, on se rend pas compte, hein, on voit que la beauté, mais on ne se rend pas compte du rôle essentiel que jouent ces récifs, qui sont quand même menacés partout, hein, par nos activités humaines. Autour de la question, comment mieux connaître le corail et pourquoi cet écosystème fantastique est si sensible aussi, hein, on y viendra. C'est du côté de La Réunion, Pascal Chabanais, on l'a dit, que vous l'écoutez, et c'est depuis La Réunion que vous nous avez fait passer un très joli morceau de Maloya, que je vais vous laisser désannoncer, mais je me lance quand même. Tissour, c'est ça? Tissour, c'est le nom du groupe. Assise dans la forêt, ça c'est le titre en français. En créole réunionnais, c'est comment on dit, Pascal?
Assise dans la forêt, c'est pareil en fait.
Assise dans la forêt.
Assise dans la forêt.
Tissour, c'est ça,
pareil.
Assise dans la forêt, ta ligne hybride bon fait. Il fait frais. Pour réfléchir un peu, si la terre la réunion, comment la paix? Une voix n'a plus respect, ça bondit la fée pour nous te rayonner. Une voix y prophétie n'a même plus une discussion, comment va arriver? Non, te donne la main, ça t'es la besoin, nous toutes les humains. Qu'un métier pour certains, nous fait pis trop faux train, mais une pour demain. Dans cette la souffert, la démarbouse la vie, l'esclavage l'a fini. Nous grand-père l'a dit à nous, ça la réunion, ça l'est pour nous. Et ça va dire, Midiazot Bile, ben pour nous t'aider, agave pour nous grand papa. Lève pour nous t'aider, comme si elle n'a plus étoile, dans la fine gâtée, bon Dieu saoulé.
Assise dans la forêt. Merci Pascal Chabanais pour ce joli morceau de Maloya réunionnais, et qui dit plein de choses, hein, on s'en doute bien. On reste à La Réunion justement, où vous êtes, Pascal Chabanais. Je rappelle que nous sommes aussi en direct et en ligne à Monaco avec un autre éminent spécialiste du corail et de sa physiologie, le professeur Denis Allemand. Mais c'est donc à La Réunion, Pascal Chabanais, que vous étudiez le corail. On s'y arrête maintenant sur les traces d'un des tout premiers pêcheurs sous-marins dans le lagon de La Réunion. Il s'appelle Théophane et il raconte dans une petite pastille hip-hop sur les petites ondes participatives de l'IRD, de Planète Radio et de RFI, comment il a vu cet écosystème changer. On écoute Théophane en créole réunionnais sur cette petite vidéo que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre page.
Moi, Sol Théophane Henri. Oui, à 79.
Je m'appelle Théophane Henri Sol, j'ai 79 ans.
Vous commencez à pêcher à l'âge d'environ 10-12 ans.
J'ai commencé à pêcher, je devais avoir 10-12 ans. J'étais l'un des premiers à pratiquer la pêche sous-marine à La Réunion.
En 1956, petite pêche, poisson lavé, poisson, moule, corail, joli corail, flair.
Les coraux étaient somptueux, la mer était riche, il ne manquait rien.
Auparavant, le corail était éclatant, était joli.
Autrefois, les coraux étaient éclatants de beauté. Aujourd'hui, ils ont perdu de leur superbe.
Avant, la mer est comme une ville. C'est comme une ville dans la mer, auparavant. C'est joli. Maintenant,
avant, la mer c'était comme une ville, c'était beau, mais maintenant c'est fini.
Une poubelle.
La mer est devenue une poubelle. Aujourd'hui, la mer est sale.
Le corail, quoi, fini rouillé, quoi, vu la couleur.
Les coraux ont une couleur de rouille, les fonds marins sont pollués.
Dans les années 60-70,
c'est dans les années 60-70 que le lagon a commencé à perdre de sa beauté.
La baie des Joissins, où il est maintenant? Napi, où les petits crabes? Le carabosse, le humain, où il est? Napi, c'est comme un béton, si vous voulez.
Autrefois, il y avait des étendues de moules sur plusieurs kilomètres. Aujourd'hui, tout a disparu.
Où est les moules? Plus de moules.
Il y avait énormément de coraux, de coquillages. Ils étaient magnifiques.
Où il est ?
Mais Napi ? Il n'y en a plus.
Condomores ! Où il est ? Napi ! C'est malheureux, malheureux. Mais auparavant, à La Réunion, quand ça avait fumier.
Auparavant, dans les hauteurs de l'île, on utilisait du fumier naturel dans les champs et pas de l'engrais chimique.
Napi, ils ne tombent pas, toi, La Réunion ?
La Réunion est une île montagneuse. Quand il pleut beaucoup sur les hauteurs, tous les produits chimiques déversés sur les sols ruissellent dans les ravines et se retrouvent dans la mer.
Allez, la mer ! Allez, c'est la mer qui est le sable.
Prenez le temps de vous balader sur la plage. Vous verrez tous les poissons morts. Tant qu'on aura un usage intensif de produits chimiques, la mer connaîtra ce triste sort. On nous accuse souvent, nous les petits pêcheurs, d'être à l'origine de ce désastre.
Alors qu'on se contient qu'on est en train de protéger, nous, pas pour détruire. Parce que ça, c'est notre métier.
Moi, je dis non. Nous, on ne détruit pas le lagon. On le protège parce qu'on vit grâce à lui.
Pascal, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Théophane, aucun des premiers pêcheurs du lagon? Avant, la mer, c'était Zoli, c'était comme une ville.
Ouais, bah oui, c'est très. Je pense qu'il a une analyse qui est. C'est ce que, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur le fait que effectivement, il y a moins de couleurs. Et puis il a parlé du problème du ruissellement du bassin versant avec des produits chimiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus d'engrais, il y a du plomb sur les routes. Et encore une fois, La Réunion est une île où avec des bassins versants relativement abrupts, tout ça arrive à la mer et il dit que la mer est devenue une poubelle. En fait, il y a encore des jolis endroits à La Réunion.
Absolument.
Je ne ferai peut-être pas le paysage, le constat qu'il fait, en tout cas, et son analyse est très juste. Après, je dirais, quand il parle, je pense que ce qui est important pour moi, c'est, je pense que le Théophane, en fait, dans les années 60-70, il y avait très peu de pêcheurs, en fait, à La Réunion, en fait. C'est vrai que c'est quand même récent que les Réunionneux vont vers la mer, parce qu'on a une mer qui est quand même assez hostile. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 850 000 habitants à La Réunion. Donc, vous voyez un peu, il y a une pression humaine très forte sur ces petits récifs. Et donc, c'est vrai que moi, c'est encore une image que je dis souvent, c'est un peu comme un jardin public, en fait. Et ce récif corallien, on doit le gérer un peu comme un jardin public, avec des zones où on peut faire de la pêche, des zones où on ne peut pas faire de la pêche, des sentiers sous-marins, comme il en existe aujourd'hui. Mais on est tous concernés par cette problématique et on est tous responsables de ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se jeter la balle, dire
oui, c'est la faute aux pêcheurs, c'est la faute.
C'est ça. Non, en fait, je pense qu'il faut avoir cette conscience collective et le fait que c'est vrai que la sensibilisation est un aspect important pour moi parce que je consacre beaucoup, même au niveau de mes recherches. Où je travaille sur ces interfaces science sensibilisation avec notamment les enfants, déjà de comprendre que le corail c'est pas un caillou, c'est un animal qui pond des œufs. Quand on se met à l'eau, on marchera pas dessus, on aura plus tendance à observer. Donc c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est vraiment de connaître, de comprendre comment fonctionne ce magnifique écosystème. Et je pense qu'à travers cette connaissance, du coup, il y aura des impacts qui seront, pour l'espérer, dans le futur, minimisés.
C'est ce qu'on espère, parce que c'est vrai que quand on voit la beauté, mais c'est aussi effectivement la connaissance, savoir que c'est un animal, essayer de comprendre un peu mieux, Denis Allemand aussi, comment fonctionne cet animal ou cet organisme ingénieur, architecte, cette forêt sous les mers, essayer de comprendre, ça peut permettre aussi évidemment de vouloir préserver, parce qu'on se rend compte que c'est insensé cet écosystème quand même. D'où l'intérêt des recherches que vous menez tous les deux différemment, sur le terrain, en laboratoire, de sensibilisation aussi. Denis Allemand, vous voulez réagir là-dessus ?
Toute recherche, il n'y a pas une recherche plus importante que l'autre. La recherche, qu'elle soit en laboratoire ou sur le terrain, est tout aussi importante. En fait, la recherche est cruciale pour pouvoir répondre, à donner des réponses au monde dans lequel nous vivons. Imaginez, il y a 200 ans, on connaissait encore très mal le fonctionnement du corps humain, et donc pour soigner, les médecins faisaient des choses très empiriques. On mettait des ventouses parce qu'on ne savait pas. Pour arriver à augmenter la connaissance et la qualité des soins, il a fallu augmenter le savoir sur le fonctionnement même du corps humain. Et encore aujourd'hui, hein, malheureusement, on ne guérit pas parfaitement les cancers, et ça, parce qu'on ne connaît pas suffisamment le mécanisme de tumorogénèse. C'est la même chose pour les coraux. Comment peut-on imaginer arriver à apporter des solutions, mmh. hein, si ce n'est arrêter de les stresser par le réchauffement climatique, mais comment on peut apporter des solutions si on ne connaît pas leur fonctionnement? Or, le fonctionnement, l'étude du fonctionnement des coraux n'a commencé réellement qu'il y a une trentaine d'années.
Et oui, donc c'est jeune, hein, l'étude
avant,
des coraux.
On faisait de l'écologie un petit peu, mais c'était tout récent. Hein. La connaissance des récifs est encore très récente. Donc on connaît encore très peu de choses. Or, malheureusement, hein, la recherche est absolument nécessaire pour mieux protéger les coraux. Alors je dirais également que cette recherche est non seulement nécessaire pour mieux comprendre et mieux protéger les coraux, mais cette recherche n'est pas dans un seul but, elle ne sert pas qu'à connaître mieux les coraux pour les protéger. La recherche sur les coraux peut permettre également de mieux comprendre notre propre physiologie, de mieux apporter aussi des solutions pour l'humain. Juste quelques exemples. Hein. Il y a quelques années, a été mis en évidence le fait que les squelettes de coraux, hein, de coraux que l'on trouvait morts, pouvaient être utilisés en implantologie pour remplacer les os. Parce que ces squelettes, une fois qu'ils étaient implantés, allaient être colonisés par les cellules osseuses humaines et au bout de quelques semaines à quelques mois, allaient être totalement remplacés par de l'os néoformé. Et ça, c'est fantastique.
Extraordinaire.
C'est la connaissance de l'animal qui a permis d'arriver à ces conclusions-là. De la même façon, nous, ici, au centre scientifique, on exploite une des particularités du corail, qui est de pouvoir vivre des centaines, voire des milliers d'années, hein, si l'homme ne le stresse pas trop. Hein, les plus vieux cnidaires ont plus de 3000 ans, 4000 ans. Donc, on essaie de comprendre ces mécanismes de vieillissement chez ces animaux-là, non pas pour que le faire vieillir plus longtemps l'homme, mais pour peut-être le faire vieillir en meilleure santé. Mmh. Pour comprendre pourquoi l'homme en vieillissant, ou les animaux en vieillissant, ont des pathologies. Donc c'est peut-être la solution, viendra peut-être d'une meilleure connaissance des coraux, qui, la meilleure connaissance des coraux, ça permettra de sauver les coraux, mais ça permettra aussi d'apporter des éléments majeurs pour notre qualité de vie et pour notre santé.
Fascinant, fantastique coraux autour de cette question du corail. Alors justement, et de ces recherches, il y a des endroits où le corail résiste mieux qu'on pourrait le penser. C'est le cas notamment en Nouvelle-Calédonie. Vous avez aussi mené des recherches, hein, Pascal Chabanet, vous nous l'avez dit, 1600 km de barrières, 15 000 km de lagons et de récifs, 401 espèces de coraux. En Nouvelle-Calédonie, c'est donc le plus long récif corallien au monde, derrière la barrière de corail australienne, fortement impacté lui aussi par le blanchiment, notamment en 2016. Le récif de corail calédonien a été plus résilient, il a même retrouvé sa couleur initiale. Alors comment expliquer cette meilleure résistance à un stress de température? C'est précisément ce que recherche l'équipe Entropie, écologie marine tropicale des océans pacifiques et indiens de l'IRD à Nouméa. Valentine Meunier, doctorante en biologie, lauréate 2020 du prix Jeune Talent pour les femmes et la science de L'Oréal UNESCO, explique ses recherches et ses découvertes depuis Nouméa, donc à notre reporter Charlie Dupuis. Valentine Meunier sur la résilience des coraux de Nouvelle-Calédonie, pourquoi et comment.
On l'explique notamment par leur régime alimentaire. On a fait l'hypothèse que pendant un stress thermique, les coraux trouvent des nutriments qui sont beaucoup plus importants dans un certain type de plancton qui s'appelle les diazotrophes. Voilà, en fait, il faut savoir que les coraux, ils acquièrent des nutriments grâce à leurs microalgues qui sont dans leur tissu, et donc lorsque les coraux sont privés de ces nutriments dus au blanchissement, donc ils n'ont plus les nutriments fournis par leurs microalgues, ils vont prélever dans l'eau environnante d'autres sources de nourriture, à savoir ce plancton diazotrophe qui est en abondance en Nouvelle-Calédonie.
Et alors, quelles expériences vous avez menées et quels sont vos résultats?
On a fait des expériences à l'aquarium des lagons de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Et on a incubé certaines colonies coralliennes, blanchies et non blanchies, avec du plancton diazotrophe. Et on a observé que les colonies blanchies étaient susceptibles de davantage se nourrir de plancton diazotrophe et que ça leur permettait d'être plus résistantes à un stress de température. Voilà, ça se trouve, la solution des coraux calédoniens, et dans leur régime alimentaire, à savoir prélever davantage de plancton d'azotrophe pour avoir davantage d'azote. Et cet azote va leur servir à mieux résister et mieux vivre s'il y a un stress environnemental. Et donc c'est vraiment un espoir et c'est une source d'information incroyable pour cette recherche-là, justement, à savoir est-ce que les coraux de Nouvelle-Calédonie vont réussir à survivre face à ce changement climatique.
Est-ce que vous avez une question pour nos deux invités, Denis Allemand et Pascal Chabanet ?
Oui, en lien avec mes recherches, je voulais savoir quelle était, selon vous, la piste qui serait la plus efficace et bien sûr la plus réaliste pour améliorer la résistance et la résilience des coraux, à savoir, par exemple, l'évolution assistée, comme il est expérimenté dans plusieurs labos maintenant, notamment en Australie, par exemple.
Et qu'est-ce que c'est, l'évolution assistée ?
L'évolution assistée, c'est, par exemple, générer des stress environnementaux sur des colonies coralliennes et ne garder que celles qui résistent à ce stress environnemental. Et du coup, ce sera la génétique qui déterminera ça. Donc, on gardera les colonies qui sont génétiquement plus thermotolérantes à un stress thermique, par exemple. Voilà, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que ce serait efficace de faire ce genre de recherche pour les récifs coralliens du monde entier ?
Qui veut répondre à cette question ? Denis Allemand, peut-être, vous voulez répondre à cette doctorante en Nouvelle-Calédonie ?
Je peux répondre en effet. Hein. C'est vrai que cette histoire d'évolution assistée, qui a été au départ émise, d'une hypothèse émise par nos collègues australiens et américains, est pour moi une réponse pleine d'espoir. Mm-hmm. L'évolution assistée, la personne en question l'a très bien expliqué, mais c'est en fait tout simplement la sélection qui a été faite par l'homme dans tous les temps. Si on a des vaches qui produisent plus de lait des chiens qui ont différentes tailles et formes, c'est tout simplement parce qu'on a fait de la sélection à partir d'un couple original de loup d'un auroch.
Ce serait faire la même chose pour les coraux, finalement.
Voilà, cette sélection, on pourrait effectivement l'appliquer aux coraux en faisant des stress et en essayant de sélectionner les organismes qui résistent. Donc, sur le principe, c'est tout à fait faisable. On travaille, nous, ici, au Centre scientifique de Monaco,
oui.
Dans des conditions contrôlées sur des problèmes. Alors, ce n'est pas des problèmes de réchauffement, c'est l'autre problème du gaz carbonique. Ce gaz carbonique qui provoque le réchauffement, ben, il se dissout aussi dans les eaux. Mm-hmm. Ça réduit d'ailleurs l'effet de serre, donc c'est une bonne chose pour la Terre, mais mm-hmm. c'est une très mauvaise chose pour les océans.
Ça acidifie les océans.
Du CO2 dans de l'eau, eh bien, ça fait de l'acide, mm-hmm. et donc ça acidifie l'eau, et donc petit à petit, les eaux deviennent de plus en plus acides. Alors on n'est pas encore dans une eau acide, au sens chimique du terme, mm-hmm. mais les eaux se sont acidifiées l'acidité a augmenté de 30% depuis les années 1880, c'était mm-hmm. énorme.
Et c'est mauvais pour les coraux, évidemment.
Tout à fait, parce que cette acidification des eaux va empêcher ces animaux de fabriquer leur squelette. Donc nous, on a des coraux que l'on a mis en culture sur plusieurs années, et on les cultive dans des eaux de mer à pH, à acidité normale, mm-hmm. et puis dans des pH de plus en plus acides. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que très rapidement, après quelques mois, mais ce n'est pas des années, hein, des dizaines d'années, c'est quelques mois, une ou deux années grand maximum, on s'aperçoit que les coraux modifient leur physiologie. Mmh. Ils adaptent une morphologie qui va être différente pour pouvoir grandir à la même vitesse, pour pouvoir toujours se trouver près de la surface des eaux. Ils vont faire un squelette beaucoup plus poreux. Et ces modifications-là, hein, qui sont des modifications adaptatives, sont dues à un phénomène qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, ce ne sont pas des mutations, c'est tout simplement une modification qui est transmissible à la descendance. Alors, on l'a montré avec mm-hmm. nos collègues du laboratoire COST en Arabie Saoudite. Ces modifications sont transmissibles à la descendance, c'est des modifications simplement d'expression de gènes. Et ça, c'est sûrement un espoir qui est basé derrière ce qu'on appelle donc l'évolution assistée.
Pas mal de pistes hein, donc sur la résilience, l'adaptation. Plus on comprend les coraux et plus on peut imaginer les préserver et en tout cas préserver ces réservoirs de vie indispensables. Pascal Chabanet, vous avez un mot à dire là-dessus sur cette adaptabilité, résilience des coraux ?
Alors, Oui, en fait, je voulais compléter les propos là de mes collègues,
oui,
aussi bien
de Valentine Meunier.
Que Denis, en fait, par rapport à ce que je vois, moi, sur le terrain, donc par rapport à la sélection naturelle qui se fait naturellement sur le terrain, en fait.
Oui, bien
Je
sûr.
vois, par exemple, je travaille aussi beaucoup à Mayotte, hein, qui sont des récifs qui sont très impactés, les récifs frangeants notamment, par les pressions de l'homme littoral, hein, qui sont et en fait en 2016 ils ont été, il y a plus de la moitié des coraux qui ont blanchi, et ils ont récupéré relativement bien de ce blanchissement qui a été important. Donc en fait il y a aussi dans le milieu naturel, sans intervention de l'homme, des sélections naturelles évidemment qui se font.
Et qui sont inspirantes, qu'il faut regarder aussi, c'est ça
voilà,
que vous dites.
C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est quand même c'est des petites notes d'espoir. Alors après, il faut voir effectivement quel type de coraux résiste. Ça, c'est sûr qu'on voit en général aujourd'hui beaucoup plus de coraux massifs qui sont plus résistants et plus résilients. Et ça pose peut-être un problème aussi dans le futur. Si je reviens à mon image du corail,
qui forêt. Est
le poisson, la forêt. Donc vous imaginez que vous passez d'une forêt avec des arbres branchus à des forêts plus massive, où il y a peut-être moins d'habitations, de petites cachettes pour les poissons, qui posent aussi peut-être des problèmes pour leur survie à l'état juvénile. Enfin bon, bref, tout ça pour vous dire que il y a des choses qui se passent en sélection naturelle. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui l'étudient, comme Denis Lallemand, au niveau physiologique, hein, ou Valentine. Et donc il y a en même temps, moi je trouve que c'est des notes d'espoir aussi de voir quand même cette résilience des récifs face à ces impacts qui sont quand même assez importants, impacts essentiellement dus à l'homme. Avant de parler de réchauffement climatique, qui est aussi dû à l'homme, mais c'est sûr que ça aussi aujourd'hui a un impact. Donc, puis la solution aussi, si je peux rajouter aussi quelque chose,
bien
c'est
sûr.
De. Le fait de limiter l'impact des activités humaines à travers des aires marines protégées peut permettre aussi, peut favoriser la résilience des écosystèmes, enfin des coraux et des écosystèmes face à des perturbations naturelles. Parce que c'est vrai que le changement climatique, bon, je parle de perturbations naturelles, on le sait que c'est dû aussi évidemment à l'homme, mais ces impacts qui sont à grande échelle, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? C'est, Denis Lallemand parlait d'un demi-degré, d'un degré de plus, ça a un impact très important sur ces récifs. Donc en fait, pour essayer de rendre ces écosystèmes encore, enfin renforcer leur résilience, en fait, c'est le fait de faire des aires marines protégées, c'est quand même aussi une solution qui fait partie, enfin qui c'est vraiment à prendre à favoriser la mise en place de ces aires marines protégées
dans cette boîte à outils pour préserver les coraux, on l'a dit, totalement essentiel. Et la biodiversité, hein, de ces coraux, vous compariez effectivement les coraux pour les poissons, aux arbres, pour les oiseaux, c'est vraiment préserver la biodiversité. On s'interroge toujours autour de la question des coraux, à l'écoute cette fois-ci de votre morceau préféré, Denis Lallemand, aux Marquises, tiens donc, avec Jacques Brel.
Ils parlent de la mort comme tu parles d'un fruit. Ils regardent la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux Marquises.
aux Marquises avec Jacques Brel sur RFI. Merci pour ce très beau choix musical et océanique, hein, Denis Allemand. Je rappelle que vous êtes professeur, directeur scientifique du Centre scientifique de Monaco, spécialiste de la physiologie du corail, ce drôle d'animal, végétal, minéral, si sensible et si fascinant, cet écosystème unique en son genre, clé de la vie dans les océans, mais aussi sur Terre. Hein. C'est vraiment le corail, c'est la vie, que vous étudiez vous aussi, Pascal Chabanet, qui est en ligne avec nous depuis La Réunion. Vous êtes chercheuse à l'IRD, spécialiste des poissons des récifs coralliens que vous observez en plongée dans les eaux profondes. Alors, les récifs coralliens se voient depuis l'espace. C'est vraiment indispensable à la vie, on l'a compris, d'une beauté incroyable. Ces ingénieurs, ces architectes, le corail, c'est vraiment la vie, hein, vu d'en haut comme vu des profondeurs. Qu'est-ce qui resterait ? C'est énorme. Mais en quelques mots, on arrive à la fin de cette émission. Qu'est-ce qui resterait à découvrir sur les coraux pour vous, Pascal Chabanet ?
Alors, pour moi, je pense qu'il y a vraiment le micro, en fait, vraiment essayer de mieux comprendre la physiologie, les processus d'adaptation, le rôle des zooxanthelles, les différents types de zooxanthelles, en fait, vraiment tout ce qu'étudie particulièrement Denis Allemand. Je pense que ce monde microscopique est peut-être ce qu'il faut vraiment étudier dans le futur et chercher à le comprendre, tout à fait. Et puis après, c'est sûr, voir un peu aussi quelles seraient les solutions pour essayer de protéger ces coraux contre les changements climatiques importants qui nous attendent. Et j'avoue que là, j'ai vraiment pas de réponse.
Mais c'est quand même en lien, hein, parce qu'on l'a pas dit, mais vous êtes une grande passeuse de science et de science des coraux, et c'est en lien avec les populations. Enfin, on n'est pas ennemis, on est tous liés, en fait, interdépendants, oui, autour exactement. Des coraux quand même. Hein, c'est ça. Hein.
Tout à fait. Bon, c'est sûr que c'est un peu, moi, la chose auxquelles je crois beaucoup, c'est la sensibilisation, l'éducation des jeunes. Donc, c'est sûr, c'est je pense qu'en passant ce relais, en partageant ma passion et en expliquant le fonctionnement de ces coraux et des récifs coralliens, c'est aussi, en fait, c'est aussi une des voies importantes pour moi pour essayer de protéger ces coraux dans le futur.
Depuis La Réunion, donc, Denis Allemand, pour vous, qu'est-ce qui vous fascine le plus et qu'est-ce que vous aimeriez découvrir donc sur ces coraux que vous étudiez au niveau microscopique?
Oui, je crois que Pascal Chabanet vient de le dire. C'est la complexité de ce système. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que les coraux ressemblent beaucoup, finalement, le fonctionnement du corail ressemble beaucoup à l'humain, déjà dit deux mots. Le génome du corail est très proche de l'humain, beaucoup plus proche que peut l'être une mouche, par exemple. Mais en dehors de ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une complexité énorme. J'ai parlé tout à l'heure de la symbiose entre le corail et son algue, mais en fait, la symbiose est beaucoup plus complexe, parce qu'il y a énormément de bactéries qui sont présentes dans le corail, dont on ne sait pratiquement rien sur le rôle. On commence à peine d'ailleurs à découvrir le rôle des bactéries dans notre propre physiologie. Hein. Vous avez plusieurs livres qui sont sortis ces dernières années, mais alors sur les coraux, on ne sait pas. Et peut-être que ces bactéries pourraient aussi jouer un rôle dans l'adaptation des coraux au changement climatique. C'est d'ailleurs aussi un des buts de Tara Pacifique, hein, d'essayer de découvrir cette richesse de bactéries qui vit à l'intérieur du corail.
Vous nous en direz plus, Denis Allemand, quand vous en saurez plus aussi autour des échantillons ramenés par Tara sur donc cet écosystème, on l'a compris, extraordinaire, dont on est loin de tout connaître, mais que vous explorez tous les deux. Merci infiniment d'avoir été en direct, en ligne avec nous. Alors, depuis La Réunion, Pascal Chabanet, merci pour toutes les pistes musicales, sonores et vidéos que vous avez fait partager. Tous les liens, bien sûr, sont sur notre page. Merci, Denis Allemand, d'avoir été en direct avec nous depuis le Centre scientifique et océanographique de Monaco. Je rappelle le titre de votre ouvrage très inspirant, Corail, un trésor à préserver, paru chez Glénat, coédité par l'Institut océanographique, la Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, et coécrit par vous, Denis Allemand, avec Robert Calcagno et Bernard Fautrier, dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs et auditrices, un exemplaire à vous offrir si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Je vous signale également un très bel ouvrage, coécrit par votre collègue et chercheur de l'expédition éditions Tara, Serge Planès, Récif corallien, cœur de l'océan, aux éditions Mangareva, regard croisé de l'acteur Lambert Wilson, du chercheur Serge Planès et du photographe plongeur Alexis Rosenfeld sur les récifs coralliens. Merci à Hugo Violas de l'autre côté de la vitre, à Caroline Fillette en coulisses. On se retrouve demain, chers amis auditeurs et auditrices, autour du loup. Qui sont les loups? Comment vivent-ils? Et faut-il vraiment en avoir peur? À suivre demain sur RFI, le journal, dans une minute.